Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Pour celles et ceux qui ont la chance de nous écouter sur un poste de radio à Marseille en mode vieille France, et pour tous les autres aussi, vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles. Nous sommes le 14 mai, on est en direct de 19 à 20h et en rediffusion demain, jeudi, entre 9 et 10h. Ensuite, l'émission sera disponible en podcast sur Spotify et sur le site internet de Radio Galère. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre ces initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chers auditeurices, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Elissa, je suis accompagnée ce soir de Marin Maufray, de Jeanne Ray en studio, en régie.
Bonsoir à toutes et tous.
Je suis avec Claire Mayou en studio.
En studio cette fois-ci, bonsoir tout le monde.
Et ce soir, nous invitons Stéphanie Cross et Émilie Létari.
Leistari,
merci. De l'école comestible. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue au studio. On va commencer par se poser la question de notre sève, notre niveau d'énergie. Et je vous envoie cette balle pour me dire un peu où vous en êtes aujourd'hui, à cet instant. Comment vous vous sentez?
Je commence. Alors bonsoir, moi c'est Stéphanie qui vous parle. Et moi, je suis en pleine forme, ravie de découvrir ce studio d'enregistrement que je ne connaissais pas. Je pense qu'Émilie le connaît un peu mieux que moi.
Je me suis souvenue effectivement d'être déjà venue ici il y a peut-être 2 ans sur une émission. Il faudrait que je retrouve laquelle exactement, mais on était plusieurs. Et c'était déjà pour un petit peu parler de l'école comestible.
Oui. Eh bien, bienvenue pour la deuxième, alors.
Merci beaucoup, Elissa, de nous avoir invités.
Mais avec grand plaisir. Et on va continuer individuellement. J'aimerais bien connaître un petit peu vos parcours, ce qui vous a amené aujourd'hui, là où vous êtes, à l'école comestible. Qu'est-ce qui, dans votre cheminement, vous a mené jusque là où vous en êtes?
Allez, c'est moi qui commence. Donc, moi, j'ai découvert, l'alimentation, la cuisine, l'alimentation durable, légumes. Je les ai découverts avec la grand-mère de mon mari, qui avait une ferme agropastorale dans le 04, hein, dans les Alpes d'Haute-Provence.
Est-ce que tu peux clarifier le terme agropastoral?
C'est une ferme laquelle il y avait de l'élevage de moutons, forcément, près de Sisteron. Et où tout ce qui provient de la terre permettait de nourrir ceux qui composaient la ferme, donc la famille principalement. Donc pommes de terre, beaucoup de pommes de terre. et donc moi j'ai découvert avec elle, avec cette grand-mère incroyable, la soupe au pistou, des sauces tomates avec juste un petit peu de sauge et d'ail. Le dimanche soir avant de repartir, qui était incroyable. Donc voilà, c'est vraiment la découverte des légumes avec cette personne. Et après, je sais pas si vous vous souvenez, mais bon, vous êtes sûrement beaucoup plus jeune que moi. Vers 2004-2005, j'ai eu ma première fille. Et là, c'était le début des paniers paysans. On arrivait avec on récupérait un panier dans les AMAP ou autres boutiques. Et avec toutes sortes de légumes qu'on ne connaissait pas. Et il fallait essayer de trouver des recettes et essayer de faire avec. Donc voilà, je suis tombée dans la marmite des légumes comme ça, dans le panier de légumes. Et c'est vrai que voilà, ça a été mon attrait avec la cuisine et avec les paniers paysans. Et après, petit à petit, quand l'école comestible est venue à moi, j'ai sauté le pas.
Alors comment l'école comestible est venue à toi?
L'école comestible est venue à moi le jour où c'était un événement. C'était Agir pour le vivant, organisé par Françoise Nissen à Arles, en Arles. Et donc, lors d'une conférence, Camille Labro, qui est la fondatrice de l'école comestible, parle de son projet qu'elle venait de lancer en 2019. Et là, je me dis, mais ce projet est génial. J'ai envie de lancer ça aussi sur Marseille et la région. Et c'est parti de là. J'ai chopé son Instagram et je l'ai contacté.
Et à cette époque, toi, tu travaillais dans quel secteur ?
Moi, je travaille toujours dans le e-marketing.
D'accord. Grand écart.
Oui, c'est ça.
Ça marche.
Et toi, Émilie, comment tes pas t'ont mené jusque-là ?
Alors moi, j'ai fait la rencontre de Camille Labro, donc qui est journaliste et comme tu l'as dit, fondatrice de l'école comestible. J'ai fait sa rencontre dans un cadre professionnel parce que c'était à l'occasion d'une interview. Je suis journaliste, donc ça c'est ma casquette principale. Et j'écris pour Libération et j'animais à cette époque-là un podcast qui s'appelle Bouffon et qui parle de nourriture à travers différents angles assez sociétaux. Et donc j'ai eu le plaisir d'interviewer Camille à cette occasion et elle m'a tout de suite carrément bluffée avec ce projet très concret. Donc, on aura le temps de revenir un peu plus en détail, mais en gros, l'école comestible, le but de cette association, c'est de faire entrer l'éducation alimentaire dans les programmes scolaires. Donc, c'est très concret. On va dans les classes, on leur montre comment cuisiner les légumes, on leur parle de saisonnalité, on leur parle de différents modèles d'agriculture. Mais tout ça, pas juste en théorie, mais aussi à travers le faire, puisqu'on invite des maraîchers, des maraîchères, on cuisine ensemble. Et voilà, elle me raconte tout ça, Camille. Donc à ce moment-là, on est en 2019-2020. Et je me dis, c'est génial parce que c'est un projet vraiment qui prend le taureau par les cornes, qui est très concret. Moi, à ce moment-là, je suis un peu au milieu de mes articles, de mes podcasts. Je réfléchis un peu à qui vraiment les écoute et les lit, ces articles et ces épisodes. Souvent, les personnes qui m'en parlent, ce sont mes proches qui sont déjà sensibilisés à ces questions. Donc, je me dis, est-ce qu'on n'est pas quand même un peu dans un entre-soi quand on parle dans les médias de biodiversité, du mieux manger et tout ça? Et donc, quand Camille me présente ce projet, bah, tout de suite, je me dis... complètement envie de donner mon énergie là-dedans. Et il s'avère que quelques mois après, je venais m'installer à Marseille. Et donc, en fait, en arrivant à Marseille, j'ai recontacté Camille pour lui dire « Mais ce serait trop, trop chouette d'imaginer une antenne ici. » Elle m'a dit « Ne bouge pas, d'autres personnes m'ont déjà dit ça aussi. Je vais vous faire vous rencontrer. » Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Stéphanie, mais aussi avec Lison. On était trois. Lison Postel, qui est aussi une des cofondatrices de l'antenne Provence de cette association.
D'accord, donc vous avez toutes les trois fondé cette antenne de l'école comestible. Et alors, à quoi ça ressemble aujourd'hui ? Quelle est la structure ? Combien il y a de personnes qui se sont investies ? Et qu'est-ce que fait cette association ? Quel est son cœur de métier et d'action ?
Alors... très concrètement, l'école comestible, c'est entre 5 et 6 ateliers par an sur lesquels on accompagne une classe d'école élémentaire. Donc il y a différents ateliers possibles, mais il y a un socle commun. Le premier atelier qu'on donne automatiquement en arrivant, c'est l'atelier cagette de saison. C'est très simple, en fait, on invite un maraîcher ou une maraîchère en classe à venir avec une cagette mais remplie des produits que les champs ont donné. Ces fruits et légumes, ils arrivent avec de la terre tout autour. Ça paraît peut-être bête à dire, mais rien que ça, c'est déjà quelque chose pour les élèves de se dire « Ah, vraiment, on va manipuler ça, il y a de la terre, oh, c'est sale. » Enfin, voilà, il y en a plein qui sont habitués à voir les légumes prédécoupés en barquettes ou alors déjà cuisinés dans des plats à décongeler. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, ils font la rencontre aussi de cette personne. On leur demande, selon vous, comment s'appelle, c'est quoi ce métier, comment on l'appelle, l'homme ou la femme qui fait pousser des légumes. Donc, souvent, ils disent légumier, légumière. Voilà, donc on explique qu'en fait, maraîcher et maraîchère, c'est ça le nom. Et donc, il y a ce fameux temps d'échange qui fluctue selon qui on a en face de nous, puisqu'il y a des classes plus ou moins sensibilisées déjà à ces thèmes, selon aussi le type d'école, parce qu'il y a aussi des écoles où il y a déjà un potager sur place, où il y a vraiment une volonté de la part des, de la direction d'amener les enfants sur ces sujets, mais il y a plein d'autres écoles où c'est pas le cas. Donc il y a un niveau de connaissance qui fluctue. Et une fois qu'on a du coup regardé un petit peu tous ces légumes, on va les cuisiner ensemble, on va faire une vinaigrette. Individuellement, quand les légumes sont goûtés, parfois les enfants vont trouver ça un peu fade ou un peu ou alors au contraire trop acidulé. Et en fait, on va leur dire c'est l'association de tous ces légumes ensemble qui va créer quelque chose. Et en plus de ça, on va faire une vinaigrette qui va venir apporter un petit peu de rondeur en bouche ou un petit peu de salé. Et voilà, ça revient à faire un peu de magie tous ensemble. Et tout ça nous permet à la fois, donc avec ces ateliers, de, comme le veut l'expression qu'on emploie souvent et que l'on doit à Alice Waters, qui est notre inspiration, qui a fait donc The Edible Schoolyard aux États-Unis, l'idée c'est de travailler la bouche pleine et les mains sales. C'est d'être dans le faire. Et tout en faisant ça, donc on a des plaquettes de cours, on va montrer qu'on parle de différents types d'agriculture, des saisonnalités. Voilà, là c'est un atelier type, et au total il y en a plusieurs dans l'année. Et c'est important de préciser qu'il y en a plusieurs, parce que un seul, ce serait déjà pas mal, mais ce serait un peu l'équivalent de ce qu'on voit avec la semaine du goût, ce qui est déjà en soi génial, mais c'est très événementialisé. Là, ce qui est chouette, c'est que comme on suit une classe au long cours, on a le temps de revenir sur des notions vues précédemment. Et en plus, les enfants nous posent des questions et prennent tout ça très au sérieux comme une matière. Au même titre qu'il y a un cours d'histoire géo, un cours d'anglais, bah là, d'un coup, il y a sensibilisation au bien manger.
Et tu parlais même d'un programme, donc tous ces ateliers ont des thématiques et se suivent de manière logique. C'est ce que vous présentez aux écoles quand vous introduisez ce projet et que vous, voilà, vous souhaitez suivre une classe donc sur toute une année, en commençant par de la découverte et en finissant par, est-ce qu'il y a un objectif à ce programme ? Est-ce qu'il y a un but à la fin de l'année ?
Il y a la sortie, tant attendue. Donc effectivement, c'est cinq cours, on va dire, et encore, c'est pas des cours, c'est des ateliers, 5 ateliers et une sortie à la fin de l'année où on peut emmener les enfants. On essaye d'emmener les enfants. Ça peut être souvent c'est chez des maraîchers qui nous invitent chez eux. Ça peut être le talus, puisqu'on a commencé avec l'école Herbelle par exemple. Ça peut être à la friche de la Belle de Mai où ils sont venus un jour faire des pizzas, faire la pâte avec les grandes tables. Donc ça, c'est vraiment, c'est vrai que c'est l'aboutissement et ça, c'est très attendu.
Et alors, quelle est la réaction, des enfants, j'imagine qu'elle est assez diverse, y en a qui sont pas trop dégoûtés d'avoir de la boue sur les mains, d'autres qui veulent surtout pas goûter un légume cru. Quelle est la réaction des parents, d'élèves? Des instits peut-être et plus généralement des institutions à l'approche de ce projet.
Alors on peut commencer par la réaction des principaux concernés, les enfants. C'est vraiment bluffant parce que dans une même classe, on voit qu'il y a des niveaux donc différents, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des enfants qui ont eu la chance de voyager un peu avec leurs parents ou d'ouvrir un livre de cuisine à la maison pour préparer le repas du soir. Donc, il y en a certains qui vont dire « Ah oui, bien sûr, oui, je connais ce légume, ça c'est du céleri, ah mais ça, je l'ai en version séchée ». Il y a même un atelier où quelqu'un m'a parlé, une petite fille, à un moment où on parlait de paella, elle a levé la main pour dire « Oui, et d'ailleurs, je suis allée avec mes parents en Espagne et il y a de la paella noire aussi. » Donc, voilà, il y a des enfants qui voyagent aussi et qui sont exposés à plein de choses. Et puis, d'un coup, il y en a d'autres aussi qui vont devoir réfléchir un bon bout de temps avant de dire qu'en fait les frites c'est fait à partir de pommes de terre quand on leur demande quel est le légume qu'il y a derrière, ou alors quand il y a une courgette et un concombre sur la table, il y en a certains qui vont mettre un petit peu de temps avant de savoir les repérer. Et voilà, nous notre objectif c'est de répondre à cette diversité de niveaux aussi. Et ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est de surtout pas être donneur de leçons. Il n'y a pas de mauvaises questions, évidemment. Il n'y a pas de honte. Et donc on essaie de mettre tout le monde un peu au même niveau et de dire mais goûte, si tu penses que t'aimes pas, goûte quand même, on sait jamais, peut-être que là tu vas bien aimer. Et en fait voilà, pour en revenir aux réactions des enfants, ce qui est génial, c'est qu'il y en a certains qui au début de l'atelier sont un peu dubitatifs parfois. Donc c'est par exemple des garçons un peu grands qui vont associer la cuisine à un truc fait par leur maman, donc ils vont limite un peu bouder au début, et puis finalement à la fin c'est parfois ceux qui vont demander à repartir avec cette petite herbe parce qu'ils vont dire mais ah cette sauge citronnée, il faut trop que je fasse goûter à ma maman. Et là on se dit bah c'est trop bien parce que on est venu pour leur parler d'un certain nombre de choses, on sait pas ce qui est passé parce qu'on sait jamais exactement ce qui passe, mais si au moins il y a cette curiosité de cuisiner, bah, on sait que c'est une petite pièce qui est mise dans la machine et qui peut devenir autre chose plus tard. Voilà, donc ça c'était pour les réactions des enfants. Ouais. Après, il y a peut-être aussi, on peut parler des réactions des parents.
Ça c'est vrai que...
C'est exactement ce que j'allais demander. Est-ce que le petit garçon qui a ramené sa sauge citronnée à ses parents, c'est dans l'idée que les parents ensuite soient sensibilisés et cherchent à cuisiner plus varié, plus végétal?
C'est exactement ça. C'est très important. On souhaite que presque ce soit les enfants qui apprennent à leurs parents. C'est vraiment c'est l'enseignement inversé en fait. Et donc on insiste beaucoup pour que les parents viennent participer aux ateliers et puissent faire et aider même les enfants un petit peu à faire la cuisine. On essaye que les parents prennent pas que ce soit pas eux qui fassent, mais que c'est vraiment les enfants qui font, même qui coupent les légumes, même s'il y a le risque de se couper un petit morceau de toit. C'est presque pas arrivé. Et non, ça c'est très très important. Et les parents en général, les premières réactions, c'est qu'ils sont très étonnés souvent c'est leurs enfants, puisque c'est leurs enfants goûtent les légumes, alors qu'à la maison ils disent toujours non. Et c'est vraiment, ils repartent toujours très étonnés de ça. Et en fait, c'est que la recette, c'est que les enfants font en fait. Ils font leur salade, on leur demande de faire leur propre vinaigrette, d'inventer leur vinaigrette. Donc c'est leur réalisation, ils sont hyper fiers. Et donc effectivement, c'est étonnant de les voir goûter des poireaux, du piment, pour aussi montrer à leurs copains ou leurs copines qu'ils n'ont pas peur. Donc ça, c'est vraiment... C'est un changement de comportement en fait quand ils sont à l'école.
Et alors l'école elle-même, est-ce que c'est les écoles qui vous invitent? Est-ce que c'est vous qui faites un travail de démarchage pour trouver de nouvelles classes? Comment ça se passe classiquement?
Au tout début, on est allé les chercher, effectivement, quand ça n'existait pas ici. Donc on est allé voir, on a commencé avec l'école Herbel, qui avait, en plus il y avait le talus à côté, donc c'était très bien de faire le lien de la terre à l'assiette avec le talus. Et puis petit à petit, effectivement, et grâce aussi à Paris, Camille Labro, on a commencé à être un peu plus connu sur la région. Donc les écoles ont commencé à nous solliciter. Et puis aujourd'hui, on est vraiment en partenariat avec aussi la métropole, avec Classe Engagée. Et là, c'est la métropole qui propose aux écoles de participer à ce programme. Et nous faisons les ateliers. Donc, ils s'inscrivent, en fait. Les écoles s'inscrivent.
Okay. Et d'un point de vue très pratico-pratique, mais c'est une question qui se pose forcément, j'imagine que ça a un coût. Est-ce que ce sont les écoles qui déboursent ce montant? Est-ce que c'est la métropole? Est-ce que c'est gratuit?
C'est une très bonne question. je vais répondre, parce que c'est vrai que c'est un peu ma partie, les financements, donc la recherche de financement. Et on en a toujours besoin. Pour que ces ateliers soient vraiment faits de façon professionnelle, voilà, c'est vraiment très important. Ça veut dire que les référents, on appelle ça les référents, coordinateurs, animateurs des ateliers, doivent être formés. Donc, ils ont une formation pendant au moins une dizaine de jours. Souvent, ils montent à Paris aussi se former. Et donc, ils sont rémunérés. Et donc, pour cela, effectivement, comme ces animateurs sont rémunérés, on a besoin de financement. Donc, aujourd'hui, on a des mécènes privés, comme le fonds de dotation de la compagnie fruitière, comme CVE. Aussi, on a eu le fonds épicurien au départ. On a aussi Marcel et Fils, les magasins bio qui nous suivent pour nous donner faire des dons de denrées. Mmh. Et puis aussi, on a tous les mécènes publics aujourd'hui, de plus en plus. C'est en partie la métropole qui nous soutient dans cette aventure et dans cette démarche.
Okay, super. D'accord. Donc, vous êtes partie du bureau, c'est ça, toutes les deux. Et c'est vrai aussi
pour Lison.
Pour Lison, jusque-là.
Ouais.
Il y a d'autres personnes, donc les animateurs, les coordinateurs. Comment est-ce que tout ça s'articule en fait? Quels sont les corps de métier dont vous avez besoin pour que cette association puisse se développer et donner ses ateliers? Et quels sont vos alliés, donc oui, vos soutiens au quotidien dans ces missions?
Alors les corps de métier dans notre association, donc au niveau des personnes qui vont animer les ateliers. Souvent, on observe que il y a beaucoup de personnes qui travaillent elles-mêmes dans la restauration, qui sont chef et chef-e, ou alors pâtissiers, pâtissières, des gens qui vont peut-être soit travailler la terre en amont, soit travailler plutôt dans les cuisines, des personnes qui ont déjà cette sensibilité-là et qui un endroit de leur temps disponible, de leur temps libre, ont envie de pouvoir partager aussi avec les plus jeunes. Ça, c'est pour notre partie très animation d'atelier. Et puis après, comme l'a dit Stéphanie, il y a toute la partie aussi bureau, puisque pour que tout ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait toute une partie d'administratif, de recherche de financement. Là, aujourd'hui, on a eu cette possibilité il y a quelques temps en ayant assez de financement pour proposer un contrat aussi à une personne qui s'appelle Célia, qu'on salue, qu'on remercie, qui est notre chargée de développement. Voilà, en fait, ce qui s'est passé avec l'histoire vraiment de cette antenne, c'est qu'au début, il y a beaucoup de choses qu'on faisait à nous trois, en tant que toutes les trois bénévoles, personnes du bureau. Puis à un moment, et je pense que beaucoup de personnes qui sont passées à votre micro ont dû vous raconter ça aussi, où quand on change d'échelle, il faut d'un coup réussir à se structurer un peu plus si on veut répondre à plus de demandes, si on veut être présent dans un nombre grandissant d'écoles, il faut nécessairement s'organiser. Parce que là, en l'état, on a parlé d'écoles à Marseille, mais on est aussi ailleurs en Provence aussi. Voilà, on est par exemple à Manosque, à Rousset, Aiguille aussi.
Auriol.
Et notre but, c'est de continuer à essaimer le plus possible. Avec toujours cette problématique. Tout à l'heure, tu posais la question, Elissa, de est-ce qu'on va démarcher les écoles ou est-ce qu'elles viennent à nous? On cherche un certain équilibre entre les deux. C'est-à-dire que les écoles, en général, qui viennent nous chercher, sont les écoles qui, peut-être, nous ont entendu, comme ce que vous faites, donc grâce à vous, on peut en parler de l'école comestible à la radio. Donc, il y a celles et ceux qui vont entendre parler de nous dans les médias, ou alors par le jeu de parents d'élèves qui vont frapper à leur porte et qui vont dire « j'adorerais que cet asso fasse quelque chose dans l'école ». Donc ça, c'est les personnes déjà volontaires. Et puis après, il y a d'autres écoles aussi qui n'entendent pas parler de nous, ou alors entendent parler de nous, mais n'ont pas forcément cette volonté de nous faire de la place. Et parfois, c'est précisément ces écoles-là qu'on aurait envie d'atteindre. Parce que notre objectif, c'est pas juste d'être présent dans les écoles où il y a déjà un potager, où il y a déjà des personnes qui ont cette fibre écolo. On a aussi envie d'aller dans d'autres quartiers, de viser un public le plus large possible. Et ça suppose parfois aller dans des quartiers prioritaires où justement les enfants précisément ne vont pas être exposés à une cuisine locale avec des parents qui veulent acheter les petits paniers en AMAP et autres. Et c'est notre défi actuel. Alors Stéphanie, je ne sais pas si tu as un mot à ajouter là-dessus, mais on est en perpétuelle réflexion en fait sur
cette thématique. Oui, le défi, c'est vraiment ça, c'est d'aller vraiment dans les quartiers prioritaires. Le plus possible, parce qu'on le voit même quand on fait des ateliers, on va dire à Aix ou à Aiguille, voilà, on voit les enfants quand on leur demande quel est leur mets préféré, ils vont nous répondre, c'est le tofu. Donc là, on se dit bon, d'accord, on est. Et je rajouterais aussi par rapport à ce que tu disais par rapport à l'équipe, on demande d'avoir des bénévoles par an principalement, pour pouvoir transmettre au sein des ateliers, donc des bénévoles par an. Mais on est toujours aussi, on a une équipe de bénévoles aujourd'hui d'une trentaine de bénévoles. Mais effectivement, voilà, les bénévoles, parfois, n'ont pas forcément le temps d'être là à chaque atelier. Donc ça, c'est vraiment important. Si voilà, je le dis aujourd'hui, j'en profite. Hein, si des personnes souhaitent nous rejoindre et être bénévoles pour faire les ateliers, voilà, on en a besoin pour aider les enfants à manipuler. Et surtout, on apprend énormément en fait. Je suis même moi quand je retourne aux ateliers, j'apprends toujours quelque chose. Donc c'est aussi très enrichissant en tant que bénévole. Hein. De venir aux ateliers. Donc voilà, je fais un appel.
C'est vrai, on peut en profiter. Oui, c'est ça, pour remercier nos bénévoles qui sont vraiment exceptionnels et faire aussi cet appel à que d'autres personnes, si elles en ont envie, nous retrouvent, parce qu'on a un fonctionnement qui est assez agile. On peut tout à fait, en tant que bénévole, s'inscrire, être donc dans le pool de bénévoles de l'école comestible, et puis juste selon les écoles, laquelle est proche de chez moi, est-ce que je suis disponible à tel moment, on peut s'inscrire à des ateliers. Donc on a des bénévoles comme ça qui ont du temps en ce moment et qui viennent souvent, et d'autres qui disent parce que peut-être ils sont artistes à côté, ou que certains travaillent dans le milieu du théâtre, et donc selon leur planning à eux, en tant qu'indépendants, ils peuvent nous dire bon bah là vous allez peut-être un peu moins me voir les deux prochains mois, mais je reste un peu dans les parages. Et effectivement, les bénévoles sont tellement heureuses à chaque fois de revenir sur les bancs de l'école, mais un peu différemment. Même moi, quand j'y retourne, parce qu'avec Stéphanie, on est plus dans la partie opérationnelle, enfin la partie bureau plutôt, mais les fois où on fait des ateliers, c'est toujours tellement un plaisir de retrouver l'esthétique de la classe, les posters, de se remettre un peu dans cette ambiance-là qu'on a un peu oubliée. Et puis surtout, t'arrives le matin, t'as beau être un peu fatigué parfois, ou voilà, être dans tes... peut-être tracas ou réflexions un peu du quotidien. Il y a un moment, il y a une faille spatio-temporelle pendant 2 heures de cours. Il se passe plein de trucs. T'es avec les enfants. Ils te font rire. Il faut les cadrer. En même temps, tu cuisines à la fin. Tu fais quelque chose de tes deux mains. Et à la fin, eh ben, en fait, tu repars avec beaucoup plus d'énergie que celle avec laquelle t'es arrivé. Moi, c'est la dernière fois. On s'est tellement bidonné en fait à un moment. Donc, on fait un cours autour de, enfin pas un cours, un atelier donc autour des légumes de saison, et on demande aux enfants à bâtonner, lister un peu des choux, les choux que vous connaissez, parce que là, on avait un chou rave. Voilà, dans le panier. Donc ils prennent le temps, ils disent ah bah oui, ah bah chou-fleur, ouais, très bien, chou-fleur, chou-rouge, oui, en effet, chou-rouge. Et là, au fond de la classe, il y a un petit qui dit chou-rosse. Et en fait, l'histoire, on ne saura pas si c'était une blague ou pas, mais tout le monde a rigolé en même temps. Lui aussi, il a rigolé.
C'était peut-être pas une blague,
mais de toute façon, on n'était même pas là pour savoir si vraiment c'était une blague ou pas, parce que juste ça nous a fait marrer. Et puis il était un peu content aussi de dire ouais, je vous ai fait rire, j'ai fait rire toute la classe. Donc c'est aussi ce genre de moment en fait, les ateliers. Au-delà de ce qu'on apprend sur le contenu du panier, il y a ce moment où toute la classe parle, et c'est très différent du côté plus descendant habituel de l'instit qui est au niveau du tableau vert. Ils apprennent aussi, il et elle, le partage, ça on peut le dire, parce que bah justement, c'était la dernière fois un atelier avec Myriam, qu'on salue, qui est une de nos référentes qu'on adore et qui est chef. Et elle leur faisait préparer tous des beignets, des keftas plus précisément, je crois que c'était plutôt. Donc tout le monde enroulé comme ça, chacun, chacune. Et il y en a certains qui étaient assez rapides dans l'exercice et qui avaient réussi à en faire 5, 6, et d'autres qui en avaient fait 3 seulement, mais qui, juste après, avait aidé à la plonge. Et ensuite, vient le moment où Myriam cuisine tout ça, et ensuite on partage, tout le monde dit que ça sent bon, ils sont tous hyper contents. Et là, ceux qui en avaient fait 7, ils n'avaient pas oublié. Comme c'était méga bon, ils ont dit « Non, mais madame, moi j'en ai fait 7, pourquoi là on partage, j'en ai que 4 dans mon assiette ?» Et là, en fait, bah, c'est le moment où on leur dit « Mais... oui, peut-être que t'as réussi à en faire 7 et bravo à toi, t'es super fort. Mais ta voisine, elle a aidé après à débarrasser. Lui, ensuite, il a fait la plonge. Ah oui, d'accord, ok. Oui, vous avez raison, madame. Et ensuite, on partage. Et c'est ça aussi le truc, c'est qu'on apprend vraiment à faire en sorte que le moment le plus sympa, c'est le partage à la fin.
Merci, Émilie, pour cette super transition qui nous amène doucement vers la partie du tout. On va pouvoir explorer peut-être des problématiques un petit peu plus larges qui vont bien au-delà d'un atelier dans une classe, mais qui touchent en fait toute la société et que vous arrivez à englober d'une certaine manière. Mais avant ça, je vous propose une petite respiration musicale. Stéphanie, est-ce que tu veux nous présenter le morceau que vous avez choisi ?
Alors, le morceau que j'ai choisi, c'est JVP de Mister Giscard, hein, parce que c'est un très bon souvenir au Théâtre Sylvain à Marseille, hein, ce concert avec Mister Giscard.
Je vois bien que je suis pas là, mais tu essayes encore. J'ai pas les couilles de te le dire, donc vas-y toi d'abord. J'essaye juste de m'en sortir et d'oublier ton corps. J'utilise jusqu'à dormir, donc me laisse pas dehors. Donc un tas d'arrange, je veux pas tes conseils, j'en veux pas ton oseille, j'en veux pas. Nique des merdes, fais déjà voir ta gueule, j'en peux plus. La vodka, j'en veux plus tes conseils, j'en veux pas. Nique des merdes, fais déjà. Faut qu'on se capte, y'a qu'on se casse de là. C'est trop triste, passer sa vie dans le 9-3. On s'en va. Wesh, on s'en va. Dès que j'ai l'oseille, t'inquiète même pas. On s'en va, vas-y, nique ta mère de là. Y'a plus rien qui me plaît sans toi. J'me sens creux, j'me sens vide quand j'parle de ça. Ça fait bientôt 10 ans que j'm'amuse quand 10 ans. Donc, un tas d'arrange, je veux pas tes conseils, j'en veux pas ton oseille, j'en veux pas. Voir ta gueule, j'en peux plus. La vodka, j'en veux plus. Tes conseils, j'en veux pas. Nique tes merdes, fais déjà. Je veux m'immoler dès que je vois qu'il y a tout qui me saoule. M'isoler dès que je commence à m'isoler. M'immoler dès que je vois tout est là. M'isoler dès que je vois tout est là. J'en veux plus, la vodka, j'en veux plus. Tes conseils, j'en veux pas. Nique tes merdes, fais déjà. Donc, un tas d'arrange, je veux pas. Tes conseils, j'en veux pas. Ton oseille, j'en veux pas. Nique tes merdes, fais déjà. Voir ta gueule, j'en peux plus. La vodka, j'en veux plus. Tes conseils, j'en veux pas. Nique tes merdes, fais déjà.
Toujours sur Radio Galère au 88.4. Nous allons maintenant, avec nos invités de l'école comestible, aborder des thèmes un peu plus larges. On a beaucoup parlé des ateliers, de cette grande chance que les enfants des écoles accompagnées avec l'école comestible ont de pouvoir se plonger dans un univers culinaire, découvrir des légumes frais, découvrir des métiers, découvrir le partage aussi. Et j'ai lu de bien belles phrases, j'ai entendu des belles choses en regardant des vidéos, notamment sur YouTube de l'école comestible. Et il y a un axe qui me paraît extrêmement important et que j'aimerais bien qu'on développe au micro, c'est ce lien entre la terre et l'assiette qu'on semble avoir un peu oublié dans notre société à l'heure actuelle et que l'école se propose de réparer. Est-ce que vous voulez nous décrire un petit peu la stratégie de réparation de ce lien ?
C'est vrai que, alors déjà au début, l'école comestible, c'était, on va dire, le leitmotiv, c'était vraiment l'environnement. Pour nous, c'était vraiment plus pour sauver la planète parce que, effectivement, je pense qu'on en parle de plus en plus, mais le but, c'est de manger un petit peu moins de viande. essayer de plus en plus de manger moins de viande et plus de légumes. Donc on était vraiment, voilà, c'était l'importance de l'école comestible, c'était pour l'environnement. Et puis petit à petit, ça a changé, on a changé un petit peu. Et effectivement, il y a la santé publique qui s'est ajoutée, voilà, qui a une thématique qui s'est ajoutée à ça et qui est vraiment un sujet d'aujourd'hui de plus en plus présent. Et aussi, on s'est rendu compte, troisième sujet sociétal, on va dire, que on a moins de pouvoir d'achat, effectivement, aujourd'hui. Les produits coûtent de plus en plus cher. Et c'est vrai que quand on dit, nous, à l'école comestible, ce serait bien de manger bio. Bon, c'est un petit peu dur ensuite de leur expliquer comment aller jusque-là. Et en fait, on a une autre façon aussi de le dire en disant... aujourd'hui, déjà, pour manger de la viande, il y a une autre façon de manger de la viande, des protéines, pardon. C'est avec les légumineuses, par exemple. Donc ça, il y a aussi une éducation à faire de plus en plus. Et puis aussi de dire, aujourd'hui, il faut... voilà, il y a un exemple, par exemple, qui, moi, j'aime bien ce chiffre-là, de dire... on s'est rendu... En 2024, un enfant de 8 ans a consommé plus de sucre que son grand-père toute sa vie.
Wow.
Voilà, ça c'est vrai qu'on l'a affiché il n'y a pas longtemps sur l'Instagram de l'école comestible et c'est assez marquant en fait. Mm-hmm. Et donc il y a toute cette partie aussi santé et c'est ce qu'on essaye de faire avec les enfants en leur expliquant mais n'arrêtez pas, on ne vous a pas dit d'arrêter les bonbons, d'arrêter le Nutella, vous avez le droit d'en prendre un tout petit peu, il n'y a pas de problème. Mais juste on vous montre ce qu'il y a dans un pot de Nutella, comme ça vous savez, voilà. Et ça, c'est votre responsabilité de manger autant de sucre que vous voulez. Et puis, nous, on vous propose une autre alternative, c'est le datella.
On va vous voir. Au date.
Voilà, au date.
Qu'on fabrique ensemble pendant l'atelier.
Ouais.
Est-ce qu'on peut en profiter justement, tout à l'heure tu parlais des protéines végétales, pour citer les aliments qui peuvent remplacer les protéines animales, si c'est OK.
Bien sûr.
Pour pouvoir donner des exemples concrets.
Alors oui, quand on associe certaines céréales avec certaines légumineuses, on obtient toute la chaîne d'acides aminés qu'on peut aussi avoir déjà dans la viande, avec cette histoire donc de protéines animales. Typiquement, si on associe les haricots rouges et le maïs, on obtient cette fameuse chaîne d'acides aminés. Et c'est ce qu'on fait déjà souvent dans pas mal de cuisines d'Amérique du Sud. Si on associe ensuite les pois chiches avec la semoule, c'est très bien aussi. C'est ce qu'on a dans le couscous. Le riz et le soja aussi, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme légumineuses? Oui, aussi de manière générale, on cuisine avec les enfants plein d'autres types de céréales, l'orge, le millet.
Petite question sur ce que tu viens de dire. Donc, si je reprends l'exemple couscous, pois chiche et maïs, haricots rouges, si je fais pois chiche et maïs, est-ce que ça fonctionne quand même? Ou bien c'est vraiment l'association de ces deux aliments qui...
C'est vraiment ces associations qui sont un peu des mariages heureux. Ouais. Après, toute autre association restera quand même très bonne pour la santé. Mais en termes vraiment d'acides aminés, si on cherche à reproduire ce qu'on trouve dans la viande, il y a ces fameux duos parfaits.
C'est beau à connaître.
Oui. Okay. Et que vous pouvez très facilement retrouver sur Internet. Là, j'en ai cité 3-4, mais en fait, il y a 5-6 combos comme ça qui existent et qu'on peut refaire.
Et c'est des mariages heureux, j'imagine, aussi. Géographiquement, ils poussent tous les deux, et c'est là que on en revient à la thématique de la terre et le manger local et se nourrir de choses qui fait sens au moment où c'est censé pousser, à l'endroit où c'est censé pousser. J'imagine que bien sûr c'est des thématiques qui sont abordées aussi, et ça peut être surprenant quand on n'a pas du tout été sensibilisé à ça dès très jeune, de savoir que non, en fait, une tomate ne pousse pas en permanence et partout sur la planète, et il doit y avoir plein de grandes surprises comme ça pour les enfants que vous accompagnez. Il y avait aussi cette réponse à la fracture sociale que l'école comestible peut tenter de résoudre. Comment est-ce que vous voyez cette résolution là par la nourriture, par l'alimentation?
Moi, j'ai peut-être un témoignage. Hier, j'étais invitée à un échange et il y avait la banque alimentaire, qui expliquait par exemple que forcément donc ils ont plusieurs produits à proposer, dont ils essayent de plus en plus effectivement de mettre des fruits et des légumes dans ce qu'ils proposent. Et en général, c'est vrai que tout le monde se va plus naturellement à prendre des pâtes, hein, voilà, des féculents, en se disant que ça va davantage nourrir. Mais en fait, ils oublient souvent que c'est ce qu'on apprend, on essaie d'apprendre à l'école comestible. C'est vrai qu'on a pas mal de naturopathes aussi dans l'équipe, en disant mais c'est des fibres et c'est votre santé et il faut que ce soit complémentaire aux féculents. Donc on est en train aussi de, on a formé certaines personnes de l'aliment, des bénévoles de la banque alimentaire aussi sur ces sujets-là pour comment l'expliquer aussi à ceux qui viennent.
Petite question juste, désolée si elle est bête, mais il n'y a pas de question bête. La banque alimentaire, qu'est-ce que c'est exactement? Je fais un peu le rapport avec les Restos du Cœur, ce type d'association. Est-ce que tu peux
clarifier? C'est très proche, mais ce que je sais, c'est surtout voilà, ce qu'on m'a dit hier, c'était qu'ils sont principalement financés en grande partie par l'État, mm-hmm. plus que les Restaurants du Cœur. Mais effectivement, enjeux similaires.
D'accord.
Ouais.
Ok, merci.
Après, c'est vraiment aussi toute une vaste question aujourd'hui, les colis alimentaires et ce que l'on donne aux personnes qui demandent ces aides-là. Là, je voudrais renvoyer aux travaux de Bénédicte Bonzi, qui est une anthropologue qui a travaillé sur la question du don. Je fais rapidement parce que je vois que l'heure tourne, mais aujourd'hui il y a beaucoup de personnes de ces familles-là qui sont ultra précarisées, qui vont chercher ces paniers et qui parfois se retrouvent avec 3 boîtes de cœur de palmier, 5 trucs de paprika, enfin bon, je caricature un peu, mais c'est surtout pour expliquer que parfois, avec le contenu de ce qu'on reçoit, qui généralement est surtout des rebuts de l'agro-industrie, et donc ce que les supermarchés n'ont pas réussi à vendre, parfois c'est difficile d'imaginer vraiment une recette ou quelque chose qu'on peut cuisiner à partir de ces plats-là. L'école comestible, c'est sûr, n'a pas, à cet endroit-là, vocation à résoudre toute la question de la fracture alimentaire. Mais ce qu'on se dit déjà, c'est que si à l'école, on intègre ces questions-là du bien manger et des plats qui nous aident à arriver à satiété, à partir de légumes locaux et de choses qu'on peut trouver sur les marchés, on se dit que peut-être on aura réussi à remplir un petit peu une partie de la mission. Aujourd'hui, une grosse partie du capital culturel de chacun, chacune, c'est aussi l'alimentation. On n'en parle peut-être pas assez parce qu'on imagine surtout que c'est le capital culturel, c'est aller au théâtre, c'est lire ou c'est surtout le capital économique. Mais l'alimentation, c'est un gros morceau de tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que moi, j'ai découvert que en parlant des anniversaires à l'âge de 30 ans, mais j'ai réalisé que certains de mes amis allaient régulièrement faire un resto étoilé pour leurs 18 ans, pour leurs 20 ans. Il y a des familles où c'est... ça fait partie du capital depuis très longtemps, du capital culturel. On sait aussi qu'il y a des écoles de commerce dans lesquelles on donne des cours d'œnologie parce que c'est important de savoir choisir la bonne bouteille au moment de signer un gros contrat. Donc voilà, c'est autant de petits exemples qui montrent que bien manger, en fait, il y a des gens pour qui c'est un déjà là de par leur histoire familiale et pour plein d'autres non. Donc si un jour on pouvait entériner ces cours-là à l'école, et peut-être même c'est le jour où l'école comestible n'aura plus lieu d'être, eh ben, je pense que là on aura peut-être atteint notre méga objectif.
Et alors, c'est un point dont on parlait pendant la préparation un peu de l'émission, cette zone de restauration dans les écoles qui est la cantine, et votre possible lien, ou peut-être pas, avec ce lieu où finalement on fait à manger pour les enfants tous les jours, quotidiennement. Est-ce que c'est une ambition pour l'école comestible de s'immiscer à cet endroit et de co-créer peut-être des choses dans les cantines scolaires ?
Ce serait génial. Moi, j'ai ce souvenir d'enfance. J'ai grandi à Lille, c'est un souvenir. Je pense que beaucoup de personnes l'ont aussi, d'arriver à l'école le matin et de sentir ces bonnes effluves de ce qui allait nous attendre à la cantine. Et j'ai une trentaine d'années aujourd'hui, donc je parle pas d'une époque si révolue. Je pense que beaucoup de nos auditeurs auditrices l'ont connu aussi, mais c'est le moment en fait où on avait encore des cuisiniers et cuisinières sur place. C'était pas les cantines centrales qui envoyaient les plats froids qu'il fallait réchauffer après, voire décongeler. Et oui, parfois c'est perturbant pour nous à l'école comestible de donner ces cours, ces ateliers où on cuisine ensemble, et ensuite de se dire que 2 heures plus tard, les enfants vont aller manger des trucs pas toujours très très savoureux à la cantine. Donc notre objectif, oui, à terme, ce serait de pouvoir faire en sorte que ce programme se fasse vraiment main dans la main aussi avec les collectivités territoriales, avec les cantiniers et cantinières, et qu'on puisse avoir une proposition vraiment à 100% fiable et logique, et aller main dans la main dans cette histoire de bon sens cuisinier et agricole.
Est-ce que à ce jour il y a des structures, des associations qui font cet accompagnement auprès des cantiniers cantinières, ou bien ce sont des personnes salariées de l'école et elles font leur travail et elles sont pas forcément confrontées à ces enjeux-là?
Il y a une association, les cuisines nourricières, c'est ça, je crois, qui est liée au Loubatas, qui fait un très beau travail et qui effectivement forme. En tout cas, pour les cantines qui veulent évoluer, alors c'est plutôt dans les en dehors de Marseille. Et effectivement, ils forment les cantiniers et cantinières à essayer de changer un petit peu leur mode. On parlait des légumineuses. Effectivement, c'est ce genre de choses qu'ils essayent de leur apprendre, en disant comment on peut faire des recettes sympas, hyper savoureuses pour les enfants à base de pois chiches. Donc ça, c'est un de leurs travail. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus.
Mais ça, d'ailleurs, c'est déjà en partant du principe qu'il y a encore des personnes qui cuisinent dans les écoles. Mmh. Et aujourd'hui, on est dans un autre modèle où la plupart du temps, on a surtout, c'est externalisé à des entreprises, à des cuisines centrales. Et voilà, je pense qu'il y a... Enfin bon, ça n'engage que moi et peut-être d'autres personnes de l'école comestible aussi. En tout cas, c'est des discussions. Mais... y aurait un enjeu aujourd'hui à faire revenir l'acte de cuisiner dans nos écoles et dans nos cantines.
Ouais. Oui, en plus, ces grosses entreprises, ces gros groupes ont toute leur chaîne d'approvisionnement issue de l'agriculture intensive, avec les fameuses tomates qui poussent sous serre à n'importe quel moment de l'année. Ce que tu décris, moi, je l'ai connu à la cantine. Hein, on doit avoir un âge similaire, mais pourtant, moi, c'était, il n'y avait pas les bonnes effluves le matin.
Ah oui, oui, oui. Oui, non, mais c'est vrai. Du coup, ça dépend des collectivités. Ouais, oui. Oui, moi, je me souviens qu'en primaire, j'avais ces bonnes effluves là à la cantine. C'était trop chouette. Et puis d'un coup au collège c'était plus le cas. Alors c'est probablement parce que soit des contrats avaient changé, ou alors
la gestion du département communal, départemental,
voilà, aussi régional, ouais.
Et j'avais noté une autre ambition de l'école comestible, qui était la formation. Alors quelle est la cible de cette formation, quel est le contenu, où est-ce que ça va?
En parlant de formation, en plus ça fait le lien avec ce que tu me posais comme question par rapport aux agents municipaux, aux cantiniers, aux cantinières. C'est vrai qu'on va dire que l'école comestible est aussi une entreprise un pool de formation, en fait. Ils font des ateliers, mais la formation, c'est l'ADN de l'école comestible. C'est essentiel. Et récemment, on a fait une première. Hein, c'est Paris, l'école comestible Paris, qui a Montsartou. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de Montsartou, qui est l'exemple du lien entre la cantine et l'éducation à l'alimentation et la cantine, et de la terre à l'assiette, hein, puisqu'il y a effectivement des maraîchers directement qui approvisionnent la cantine en bio, 100% bio. Et donc là, on est allé pour une formation des agents municipaux directement à Montsartou. Et ce qui était intéressant, c'est que effectivement, donc c'est ceux qui s'occupent de la cantine, mais aussi qui s'occupent de la garderie après l'école. Et donc, c'était pour les former à des ateliers à l'école comestible. Et ce qui était intéressant, c'était de voir comment les sensibiliser. Parce que c'est une autre façon de sensibiliser, c'est pas des enfants. Et c'était la sensibilisation portée sur le fait que si on continue comme ça, en fait, le coût aujourd'hui du changement climatique va être très, très important pour chacun de nous, financièrement, en fait, par rapport au coût des assurances, et les assurances, c'est nos impôts. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une autre façon de faire prendre conscience de ce changement climatique. Et pas, voilà, pas en disant, bon, bah, vous allez faire tous des petites actions, ça va marcher. Mais en disant, mais attention, ça va avoir un impact sur, sur notre pouvoir d'achat. Et je pense que ça a pas mal d'impact, en fait. Et c'était la première fois que je voyais une autre façon de sensibiliser avec un autre axe. Mm-hmm. Voilà.
J'aurais bien posé d'autres questions, notamment sur des petites statistiques et des chiffres et des mesures d'impact, mais l'heure tourne malheureusement. Et je vais vous proposer la question surprise, que j'avais un peu introduite sans en dire davantage. Je vous propose, Stéphanie, Émilie, de fermer les yeux. On va faire un petit voyage dans le temps, dans le futur. Un saut de 10 ans qui nous amène en 2035. Je vous laisse choisir l'endroit où vous atterrissez à cette date. Regardez autour de vous en gardant les yeux fermés. Écoutez les bruits qui vous entourent. Peut-être des odeurs délicates ou moins délicates arrivent jusqu'à vos narines. Vous regardez tout ce qui se passe autour de vous et vous vous imprégnez de cette ambiance. Profitez-en encore quelques secondes. Et quand vous reviendrez ici dans le studio de Radio Galère le 14 mai 2025, vous pourrez rouvrir les yeux et nous raconter ce que vous avez vu, entendu, senti. À quoi ressemblait le Marseille, l'endroit dans lequel vous étiez dans 10 ans.
Forcément, Marseille, en plus, qui est une ville qui a un énorme potentiel, je trouve, et en plus, on la voit évoluer. Effectivement, on rêverait qu'il y ait beaucoup plus aujourd'hui de. Je rêverais qu'il y ait beaucoup plus de nature dans cette ville. Heureusement, il y a la mer. Et qu'on ait forcément. Toujours autant de petits restaurants, de petits la bistronomie qui continue à évoluer parce que ça on adore ça. Et notre rêve, ben je peux pas. On est obligé de dire que notre vision aujourd'hui, c'est que dans chaque école de Marseille, on ait tous les enseignants qui réalisent les ateliers de l'école comestible et que l'alimentation, surtout en plus en France, on est quand même un pays ça a une importance, comme tu disais, Émilie, culturellement, ça fait partie de nous. Et donc, on rêverait que l'éducation nationale s'en prenne de nos ateliers et que ça fasse partie du programme des écoles.
Heureusement que Stéphanie t'a répondu avant moi, parce que j'avais pas compris que c'était qu'on devait rester à Marseille.
Ah, mais c'est vrai, en plus, parce que j'ai pas dit à Marseille, j'ai dit choisissez un lieu, mais c'était sous-entendu un lieu à Marseille.
Oui, ta réponse comme ça est beaucoup plus complète par rapport à... Parce que moi, en gros, j'imaginais au Vietnam.
Et alors, il se passait quoi au Vietnam?
Alors, Vietnam, donc là où mes grands-parents ont leur maison, enfin, ma grand-mère vit aujourd'hui, et précisément dans le sud du Vietnam, donc une métropole asiatique qui grandit, qui s'appelle Saigon, et qui est, et en fait, voilà, j'entendais plein de bruits de circulation, j'avais particulièrement chaud parce que le réchauffement climatique a continué à faire son affaire dans ma projection, et voilà, donc j'étais vraiment dans un environnement très 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 dense.
C'était pas chouette comme quoi. Important de préciser, hein, c'est Marseille dans 10 ans.
Mais je suis sûre que là où tu étais, tu mangeais bien.
Oui, exactement. Mais ça, pour le coup, je mangeais très bien.
Il nous reste une petite minute pour parler, si vous le souhaitez, d'événements peut-être à venir, de l'école comestible qui fait des petits happenings ici et là, à Marseille ou ailleurs.
Est-ce qu'on peut déjà annoncer notre dîner caritatif? Oui. Alors, il va y avoir plein d'événements entre-temps, mais disons que c'est le prochain gros événement, très très gros même, c'est la première fois qu'on en organise un ici à Marseille, notre dîner caritatif, le 24 septembre, On est encore en train de travailler dessus, mais notre idée, c'est de réunir plein de chefs, enfin une belle poignée, on va dire plutôt, de chefs qui vont nous préparer des super plats et nous aider à lever des fonds pour l'association. Ça se passera au Jardin du Cloître. Dans quel arrondissement déjà de Marseille ? J'ai un petit trou de mémoire. J'ai envie de...
Pas loin de la Rose.
Oui, c'est ça.
Très probablement.
À côté du métro de la Rose.
Voilà, dans ce très, très beau lieu. Et le 24 septembre, on a déjà certains chefs qui se sont engagés. Voilà.
On peut en parler ou pas, non?
J'ai une petite hésitation. Alors peut-être pas, tant que ce n'est pas totalement calé. Mais...
Où est-ce qu'on peut retrouver ces infos? Sur Internet
Là, tout de suite, encore nulle part.
Non,
c'est
mais quand.
Très, très, très chaud.
Est-ce qu'on peut suivre vos actualités?
Ah oui, eh bien, sur notre page Instagram. École comestible Provence. Voilà, on partagera toutes les infos à ce moment-là.
Merci infiniment, Émilie et Stéphanie, de nous avoir raconté vos belles aventures ce soir. Merci à tous dans studio. Merci à tous les auditeurs et les auditrices de la Forêt des Possibles. On vous embrasse depuis le studio de Radio Galère et on vous dit à la semaine prochaine.
Bonne soirée. Merci beaucoup à nos invités.
Merci à vous pour l'invitation. Merci.